Chapitre 33. Quand M. St. John partit, la neige commençait à tomber. La tempête continua toute la nuit. Le jour suivant, un vent aigu amena des tourbillons de neige froids et épais. Vers le soir, la vallée était presque impraticable. J'avais fermé mes persiennes et mis une natte devant la porte pour empêcher la neige d'entrer par-dessous. J'avais arrangé mon feu et après être restée une heure assise sur le foyer pour écouter la tempête, j'allumai une chandelle, je pris Marmion et je me mis à lire la strophe suivante. Le soleil se couchait derrière les montagnes de Northam, couvertes de châteaux, derrière les belles rives de la Tweed, larges et profondes, et les cheviots solitaires. Les tours massives, le donjon qui les garde et les murailles qui les entourent brillent d'une lueur jaunâtre. L'harmonie des vers me fit bientôt oublier l'orage. J'entendis du bruit. Je pensais que c'était le vent qui frappait contre la porte. Mais non, c'était St. John Rivers qui tournait le loquet. Il était venu à travers ce froid ouragan et cette obscurité bruyante. Il se tenait debout devant moi. Le manteau qui le recouvrait était aussi blanc qu'un glacier. Je demeurais stupéfaite, car je ne m'attendais pas à avoir un hôte ce soir-là. « Y a-t-il quelque mauvaise nouvelle ? » demandai-je. « Est-il arrivé quelque chose ?»« Non. Comme vous vous inquiétez facilement, » me répondit-il en suspendant son manteau à la porte vers laquelle il repoussa froidement la natte que son entrée avait dérangée. Il secoua la neige de ses souliers. « Je vais salir votre chambre, » dit-il, « mais il faut m'excuser pour une fois. » Alors il s'approcha du feu. « Je vous assure que j'ai eu bien de la peine à arriver ici, » dit-il en réchauffant ses mains à la flamme du foyer. « Un moment, j'ai enfoncé jusqu'à la ceinture. » Heureusement, la neige est encore molle. Je ne pus pas m'empêcher de dire « Mais pourquoi êtes-vous venu ?»« C'est une question peu hospitalière à faire à un visiteur. Mais puisque vous me le demandez, je vous répondrai que c'est simplement pour causer avec vous. J'étais fatiguée de mes livres muets et de ma chambre vide. D'ailleurs, depuis hier, je suis dans l'état d'une personne à qui l'on a dit la moitié d'une histoire et qui est impatiente d'en connaître la fin. » Il s'assit. Je me rappelais sa conduite singulière de la veille, et je commençais à craindre pour sa tête. En tout cas, s'il était fou, sa folie était bien froide et bien recueillie. Je n'avais jamais vu ses beaux traits aussi semblables à du marbre qu'au moment où, jetant de côté ses cheveux mouillés par la neige, il laissa la lumière du foyer briller librement sur son front et ses joues si pâles. Je fus attristée en remarquant les traces évidentes du souci et du chagrin. J'attendais, espérant qu'il allait dire quelque chose que je pourrais au moins comprendre. Mais sa main était posée sur son menton, ses doigts sur ses lèvres. Il pensait. Je fus frappée en voyant que sa main était aussi dévastée que sa figure. Une pitié involontaire s'empara de moi et je m'écriai. « Je voudrais que Diana et Marie puissent demeurer avec vous. Il est mauvais pour vous de vivre seul, et vous êtes trop indifférent sur votre santé. »« Pas du tout, » dit-il. « Je prends soin de moi quand c'est nécessaire. Je me porte très bien. Que me manque-t-il donc ?» Il dit ces mots avec indifférence et d'un air absorbé, ce qui me prouva qu'à ses yeux, ma sollicitude était au moins superflue. Je me tus. Il continuait à remuer lentement son doigt sur sa lèvre supérieure et son œil se promenait sur la grille ardente. Trouvant indispensable de dire quelque chose, je lui demandai si la porte qu'il avait derrière lui ne lui donnait pas trop de froid. « Non, non, » me répondit-il brièvement et presque brusquement. « Eh bien, pensais-je, taisez-vous si vous le désirez. Je vais vous laisser à vos réflexions et reprendre mon livre. » Je mouchai la chandelle et je me remis à lire Marmion. Bientôt il se redressa. Ce mouvement me fit lever les yeux. Il tira simplement de sa poche un portefeuille en maroquin, y prit une lettre qu'il lut en silence, la replia, la remit à sa place et tomba dans une profonde méditation. Je ne pouvais pas lire en ayant sous les yeux un visage aussi impossible à sonder. Dans mon impatience, je ne pouvais pas me taire. Peut-être allait-il me mal recevoir, mais tant pis, il me fallait parler. « Avez-vous reçu dernièrement des nouvelles de Marie et de Diana » demandai-je. « Non, pas depuis la lettre que je vous ai montrée il y a 8 jours. » « Il n'y a rien de changé pour vous ? Vous ne quitterez pas l'Angleterre avant l'époque que vous m'avez indiquée ?»« Je le crains. Ce serait un trop grand bonheur pour que je puisse y compter. » Arrivé là, je changeai le sujet de ma conversation. Je me mis à parler de mon école et de mes élèves. « La mère de Marie-Garrette est mieux, dis-je. Marie est revenue à l'école ce matin, et la semaine prochaine, j'aurai 4 élèves nouvelles de Foundry Close. Sans la neige, elle serait venue aujourd'hui. » « En vérité ?»« Monsieur Oliver paie la pension de 2 d'entre elles. »«
Ah !»«
Il régalera toute l'école à Noël. »« Je le sais. »« Est-ce vous qui le lui avez conseillé ?»«
Non. »«
Qui est-ce donc ?»
« Sa fille, je crois. »«
C'est bien d'elle. Elle est si bonne. »«
Oui. »
Une nouvelle pause. L'horloge sonna 8 heures. Ce bruit le tira de sa méditation. Il décroisa ses jambes, se redressa et se tourna de mon côté. « Laissez votre livre un instant, dit-il, et approchez-vous un peu du feu. » J'étais de plus en plus étonnée. « Il y a une demi-heure, dit-il, je vous ai parlé de mon impatience de connaître la suite d'une histoire. J'ai réfléchi depuis qu'il valait mieux que je fusse le narrateur et vous, l'auditeur. Avant de commencer, il est bon de vous avertir que l'histoire vous semblera un peu ancienne. Mais de vieux détails reprennent quelquefois de la fraîcheur en passant par des lèvres nouvelles. Du reste, usée ou non, elle est courte. Il y a 20 ans, un pauvre ministre, peu importe son nom maintenant, tomba amoureux d'une jeune fille riche. La jeune fille aussi l'aimait, et elle l'épousa, malgré les conseils de ses amis qui la renièrent aussitôt après son mariage. Au bout de 2 ans, ce couple téméraire avait cessé d'exister, et tous deux étaient tranquillement couchés sous une même pierre. J'ai vu leur tombeau dans le grand cimetière qui entoure la sombre et triste église d'une immense ville manufacturière dans le comté de... Ils laissèrent une fille qui, dès sa naissance, fut reçue par une charité froide comme les amas de neige dans lesquels j'ai enfoncé ce soir. L'enfant abandonné fut porté dans la demeure d'un riche parent de sa mère. Elle fut élevée par une tante appelée, maintenant j'arrive au nom, Madame Reed de Gateshead. Vous tressaillez. Avez-vous entendu du bruit ?
C'est probablement un rat qui gratte le mur de l'école.
Avant que je la fisse réparer, c'était une grange, et les granges sont généralement hantées par les rats. Mais continuons notre récit. Madame Reed garda l'orpheline pendant 10 années. Je ne sais si elle fut heureuse ou non. Personne ne me l'a dit. Au bout de ce temps, l'enfant fut envoyé dans un endroit que vous connaissez, à l'école de Lowood, où vous-même avez demeuré. Il paraît que sa conduite fut honorable. D'élève, elle devint maîtresse comme vous. Je suis frappée du rapport qu'il y a entre son histoire et la vôtre. Elle quitta Lowood pour se faire gouvernante. Voyez, ici encore, vos deux destinées sont semblables. Elle entreprit l'éducation de la pupille d'un certain Monsieur Rochester. « Monsieur Rivers, m'écriai-je. » « Je devine vos sentiments, dit-il, mais réprimez-les un instant. J'ai presque fini. Écoutez-moi jusqu'au bout. » Je ne sais rien sur M. Rochester, si ce n'est qu'il offrit un mariage honorable à cette jeune fille et que devant l'autel, on découvrit qu'il avait une femme vivante, mais folle. Je ne connais ni ses desseins ni sa conduite après cette découverte. Il arriva un événement qui rendit nécessaire de rechercher la gouvernante. On apprit qu'elle était partie. Personne ne put savoir quand, comment, ni pour aller où. Elle avait quitté le château de Thornfield pendant la nuit. Toutes les recherches sont restées infructueuses. On a parcouru tout le pays sans avoir pu rien apprendre sur elle, et pourtant il est indispensable qu'on la trouve. On a écrit dans tous les journaux. Moi-même, j'ai reçu une lettre d'un monsieur Briggs, procureur, où l'on me communiquait les détails que je viens de vous rapporter. N'est-ce pas une histoire étrange?
Répondez-moi seulement à ce que je vais vous demander, dis-je. Vous le pourrez certainement.
Qu'avez-vous appris sur monsieur Rochester? Où est-il? Que fait-il? Se porte-t-il bien?
Je ne sais rien sur monsieur Rochester. La lettre n'en parle que pour mentionner son dessein illégal. Vous devriez plutôt me demander le nom de la gouvernante et l'événement qui rend sa présence indispensable.
Personne n'est donc allé au château de Thornfield. Personne n'a donc vu monsieur Rochester.
Je ne pense pas.
Lui a-t-on écrit?
Certainement.
Et qu'a-t-il répondu? Qui a sa lettre?
Monsieur Briggs me dit que la réponse à sa demande n'a pas été faite par monsieur Rochester, mais par une dame qui signe Alice Fairfax.
Je me sentis froide et consternée. Ainsi mes craintes étaient fondées. Il avait probablement quitté l'Angleterre et dans son désespoir était retourné vers un de ses anciens repères du continent. Et quels adoucissements avait-il cherché à ses cruelles souffrances? Quels objets pour satisfaire ses fortes passions? Je n'osais pas répondre à cette question.
Oh mon pauvre maître, lui qui avait presque été mon mari, lui que j'avais si souvent appelé mon cher Édouard.
Cet homme devait être mauvais, observa monsieur Rivers.
Vous ne le connaissez pas, ne le jugez pas ainsi, m'écriai-je avec chaleur.
Très bien, me dit-il tranquillement.
Du reste, je suis occupé d'autre chose que de lui. J'ai mon histoire à finir.
Puisque vous ne voulez pas me demander le nom de la gouvernante, je vais vous le dire moi-même.
Attendez, je l'ai ici. Il vaut toujours mieux avoir les choses importantes soigneusement écrites sur le papier.
Il prit de nouveau son portefeuille, l'ouvrit et y chercha quelque chose. De l'un des compartiments, il tira un vieux morceau de papier qui semblait avoir été déchiré brusquement. Je reconnus la forme et les traits de pinceau de différentes couleurs du morceau enlevé au papier qui recouvrait le portrait de Mademoiselle Oliver. Saint John se leva, le tint devant mes yeux, et je lus, tracé en encre de Chine et par ma propre main, les mots « Jane Eyre ». J'avais probablement écrit cela dans un moment d'oubli.
Briggs, continua-t-il, me parlait d'une Jane Eyre, et c'était également ce nom qui se trouvait dans les journaux. Je connaissais une Jane Elliott. Je confesse que j'avais des soupçons, mais je ne fus certain qu'hier dans l'après-midi.
Avouez-vous votre nom et renoncez-vous au pseudonyme?
Oui, oui, mais où est monsieur Briggs? Il en sait peut-être plus long que vous sur monsieur Rochester.
Briggs est à Londres. Je doute qu'il sache rien sur monsieur Rochester. Ce n'est pas monsieur Rochester qui l'intéresse.
Vous oubliez le point essentiel pour vous occuper de détails insignifiants.
Vous ne me demandez pas pourquoi M. Briggs vous cherche et pourquoi il a besoin de vous.
Eh bien, pourquoi?
Simplement pour vous dire que votre oncle, M. R. de Madère, est mort, qu'il vous a laissé toute sa fortune et que maintenant vous êtes riche. Simplement pour cela, rien de plus.
Moi, riche?
Oui, vous, une riche héritière.
Il y eut un moment de silence.
Il faudra prouver votre identité, continua Saint John, mais cela n'offrira aucune difficulté, et alors vous pourrez entrer tout de suite en possession. Votre fortune est placée dans les fonds anglais. Briggs a le testament et tous les papiers nécessaires.
C'était une phase nouvelle dans ma vie. Il est beau de sortir de l'indigence pour devenir riche subitement, c'est même très beau. Mais ce n'est pas une chose que l'on comprenne tout d'un coup et dont on puisse se réjouir entièrement dans le moment même. Il y a des joies bien plus enivrantes. Une fortune est un bonheur solide, tout terrestre, mais il n'a rien d'idéal. Tout ce qui s'y rattache est calme et la joie qu'on ressent ne peut pas se manifester avec enthousiasme. On ne saute pas, on ne chante pas. En apprenant qu'on est riche, on commence par songer aux responsabilités, par penser aux affaires. Dans le fond, on est satisfait, mais il y a de graves soucis.
On se contient, on reçoit la nouvelle de son bonheur avec un visage sérieux. D'ailleurs, les mots « testament »,« legs » marchent côte à côte avec les mots « mort » et « funérailles ». Mon oncle était mort, c'était mon seul parent. Depuis que je savais qu'il existait, j'avais nourri l'espérance de le voir un jour. Maintenant, je ne le pourrais plus. Puis cet argent ne venait qu'à moi seul, et non pas à moi et à une famille qui s'en serait réjouie, à moi toute seule. Certainement, c'était un bonheur. Je serais si heureuse d'être indépendante. Cela, du moins, je le sentais bien, et cette pensée gonflait mon cœur. « Enfin, vous levez la tête, » me dit Monsieur Rivers. « Je croyais que, Méduse, vous avez lancé un de ces regards et que vous étiez changée en statue de pierre. » Probablement, vous allez me demander maintenant à combien monte votre fortune. Eh bien, oui, à combien monte-t-elle? Oh, cela ne vaut même pas la peine d'en parler. On dit 20 000 livres sterling, je crois. Mais qu'est-ce que cela? 20 000 livres sterling? Mon étonnement fut grand. J'avais compté sur 4 ou 5 000. Cette nouvelle me coupa la respiration pour un instant. Monsieur Saint John, que je n'avais jamais entendu rire auparavant, se mit alors à rire. « Eh bien, dit-il, si vous aviez commis un meurtre et si je venais vous apprendre que votre crime est découvert, vous auriez l'air moins épouvanté. »« C'est une forte somme. Ne pensez-vous pas qu'il y a erreur ?»« Pas le moins du monde. »« Peut-être avez-vous mal lu les chiffres et n'y a-t-il que 2 000 ?»« C'est écrit en lettres et non pas en chiffres. 20 000 !» Je me faisais l'effet d'un individu dont les facultés gastronomiques sont très grandes et qui tout à coup se trouve assis seul devant une table préparée pour 100. Monsieur Rivers se leva et mit son manteau. Si la nuit n'était pas si mauvaise, dit-il, j'enverrais Anna vous tenir compagnie. Vous avez l'air si malheureuse qu'il n'est pas très prudent de vous laisser seule. Mais la pauvre Anna ne pourrait pas se tirer de la neige aussi bien que moi. Ses jambes ne sont pas aussi longues. Ainsi donc, je me vois obligé de vous laisser à votre tristesse. Bonsoir. » Il toucha le loquet de la porte. Une pensée subite me vint. « Arrêtez une minute, » m'écriai-je. « Eh bien, je voudrais savoir pourquoi M. Briggs vous a écrit pour apprendre des détails sur moi, comment il vous connaît et ce qui a pu lui faire penser que dans un pays écarté comme celui-ci, vous pourriez l'aider à me découvrir. » « Oh, me dit-il, c'est que je suis ministre, et les ministres sont souvent consultés dans les cas embarrassants. » Il tourna de nouveau le loquet. « Non, cela ne me satisfait pas, m'écriai-je. » En effet, sa réponse était à la fois si vague et si prompte que ma curiosité, au lieu d'être satisfaite, n'en fut que piquée davantage. « Il y a quelque chose d'étrange là-dedans, ajoutai-je, et je veux tout savoir. » « Une autre fois. » « Non !» ce soir même. » Et comme il s'éloigna un peu de la porte, je me plaçai entre elle et lui. Il semblait embarrassé. « Certainement, repris-je, vous ne partirez pas avant de m'avoir tout dit. » « Je préférerais que ce fût une autre fois. » « Non, il le faut. » « J'aimerais mieux que vous appréciez tout cela par Diana ou par Marie. » Ces objections ne faisaient qu'accroître mon ardeur. Je voulais être satisfaite et tout de suite, je le lui dis. Mais, reprit-il, je vous ai dit que je suis un homme dur et difficile à persuader. Et moi, je suis une femme dure dont il est impossible de se débarrasser. Je suis froid, continua-t-il, la fièvre ne saurait me gagner. Je suis ardente et le feu fond la glace. « La flamme du foyer a fait sortir toute la neige de votre manteau. L'eau en a profité pour couler sur le sol qui maintenant ressemble à une rue inondée. Monsieur Rivers, si vous voulez que je vous pardonne jamais le crime d'avoir souillé le sable de ma cuisine, dites-moi ce que je désire savoir. » « Eh bien, dit-il, je cède, non pas à cause de votre ardeur, mais à cause de votre persévérance. » De même que la pierre cède sous le poids de la goutte d'eau qui tombe sans cesse. D'ailleurs, il faudra toujours que vous le sachiez, autant maintenant que plus tard. Vous vous appelez Jeanne R ? Certainement, nous l'avons déjà dit.
Peut-être ne savez-vous pas que je porte le même nom que vous. J'ai été baptisé John R. Rivers. Non, en vérité, je ne le savais pas. Je me rappelle avoir vu la lettre E dans les initiales gravées sur les livres que vous m'avez prêtés. Je ne me suis jamais demandé quel pouvait être votre nom. Mais alors, certainement, je m'arrêtais. Je ne voulais pas entretenir, encore moins, exprimer la pensée qui m'était venue. Mais bientôt, elle se changea pour moi en une grande probabilité. Toutes les circonstances s'accordaient si bien. La chaîne qui jusque-là n'avait été qu'une série d'anneaux séparés et sans forme commençait à s'étendre droite devant moi. Chaque anneau était parfait et l'union complète. Avant que Saint John eût parlé, un instinct m'avait averti de tout. Mais comme je ne dois pas m'attendre à trouver le même instinct chez le lecteur, je répéterai l'explication donnée par M. Rivers. « Ma mère s'appelait R, me dit-il. Elle avait deux frères. L'un, ministre, avait épousé Mademoiselle Jane Reed de Gateshead. L'autre, John R, était commerçant à Madère. M. Briggs, procureur de M. R, nous écrivit au mois d'août dernier pour nous apprendre la mort de notre oncle et pour nous dire qu'il avait laissé sa fortune à la fille de son frère le ministre, nous rejetant à cause d'une querelle qui avait eu lieu entre lui et mon père et qu'il n'avait jamais voulu pardonner. Il y a quelques semaines, il nous écrivit de nouveau pour nous apprendre qu'on ne pouvait pas retrouver l'héritière et pour nous demander si nous savions quelque chose sur elle. Un nom écrit par hasard sur un morceau de papier me l'a fait découvrir. Vous savez le reste. Il voulut de nouveau partir, mais je m'appuyais le dos contre la porte. « Laissez-moi parler, dis-je. Donnez-moi le temps de respirer. » Je m'arrêtai. Il se tenait debout devant moi, le chapeau à la main, et paraissait assez calme. Je continuai. « Votre mère était la sœur de mon père. » « Oui. » « Par conséquent, elle était ma tante. » Il fit un signe affirmatif. Mon oncle John était votre oncle. Vous, Diana et Marie, vous êtes les enfants de sa sœur et moi, je suis la fille de son frère. Sans doute. Alors vous êtes mes cousins. La moitié de notre sang coule de la même source. Oui, nous sommes cousins. Je le regardais. Il me sembla que j'avais trouvé un frère. Un frère dont je pouvais être orgueilleuse et que je pouvais aimer. Deux sœurs dont les qualités étaient telles qu'elles m'avaient inspiré une profonde amitié et une grande admiration, même lorsque je ne voyais en elles que des étrangères. Ces deux jeunes filles que j'avais contemplées avec un mélange amer d'intérêt et de désespoir lorsqu'agenouillée sur la terre humide, j'avais regardé à travers l'étroite fenêtre de Moor House, ces deux jeunes filles étaient mes parentes. Cet homme, jeune et grand, qui m'avait ramassée mourante sur le seuil de sa maison, m'était allié par le sang. Bienheureuse découverte pour une pauvre abandonnée. C'était là une véritable richesse du cœur, une mine d'affections pures et naturelles. C'était un bonheur vif, immense et enivrant, qui ne ressemblait pas à celui que j'avais éprouvé en apprenant que j'étais riche. Car, quoique cette nouvelle eût été la bienvenue, je n'en avais ressenti qu'une joie modérée. Dans l'exaltation de ce bonheur soudain, je joignis les mains. Mon pouls bondissait, mes veines battaient avec force. « Oh, je suis heureuse !» m'écriai-je. Saint John sourit. « N'avais-je pas raison de vous dire que vous négligiez les points essentiels pour vous occuper de niaiseries ? » reprit-il. « Vous êtes restée sérieuse quand je vous ai appris que vous étiez riche. Et maintenant, voyez votre exaltation pour une chose sans importance. Que voulez-vous dire ? Peut-être est-ce de peu d'importance pour vous. Vous avez des sœurs, vous n'avez pas besoin d'une cousine. Mais moi, je n'avais personne. Trois parents, ou deux, si vous ne voulez pas que je vous compte, viennent de naître pour moi. Oui, je le répète, je suis heureuse. Je me promenais rapidement dans ma chambre. Puis je m'arrêtais, suffoquée par les pensées qui s'élevaient en moi, trop rapides pour que je puisse les recevoir, les comprendre et les mettre en ordre. Je songeais à tout ce qui pourrait avoir lieu et aurait lieu avant longtemps.
Je regardais les murailles blanches et je crus voir un ciel couvert d'étoiles dont chacune me conduisait vers un but délicieux. Enfin, je pouvais faire quelque chose pour ceux qui m'avaient sauvé la vie et que jusque-là j'avais aimé d'un amour inutile. Ils étaient sous un joug et je pouvais leur rendre la liberté. Ils étaient éloignés les uns des autres et je pouvais les réunir. L'indépendance et la richesse qui m'appartenaient pouvaient leur appartenir aussi. N'étions-nous pas quatre? 20 000 livres, partagées en quatre, donnaient 5 000 livres à chacun. C'était bien assez. Justice serait faite et notre bonheur mutuel assuré. La richesse ne m'accablait plus. Ce n'était plus un legs de pièces d'or, mais un héritage de vie, d'espérances et de joie. Je ne sais quel air j'avais pendant que je songeais à toutes ces choses. Mais je m'aperçus bientôt que M. Rivers avait placé une chaise derrière moi et s'efforçait doucement de me faire asseoir. Il me conseillait d'être calme. Je lui déclarai que mon esprit n'était nullement troublé. Je repoussai sa main et je me mis de nouveau à me promener dans la chambre. « Vous écrirez demain à Marie et à Diana, dis-je, et vous les prierez de venir tout de suite ici. » Diana m'a dit qu'elle et sa sœur se trouveraient riches avec 1 000 livres sterling chacune. Aussi, je pense qu'avec 5 000, elles seront tout à fait satisfaites. Dites-moi où je pourrais trouver un verre d'eau, me répondit Saint John. En vérité, vous devriez faire un effort pour vous calmer. C'est inutile. Répondez-moi, quel effet produira sur vous cette fortune? Resterez-vous en Angleterre? Épouserez-vous Mademoiselle Oliver? Et vous déciderez-vous à vivre comme tous les hommes? Vous vous égarez. Votre tête se trouble. Je vous ai appris cette nouvelle trop brusquement. Votre exaltation dépasse vos forces. Monsieur Rivers, vous me ferez perdre patience. Je suis calme. C'est vous qui ne me comprenez pas, ou plutôt qui affectez de ne pas me comprendre. Peut-être que si vous vous expliquiez plus clairement, je vous comprendrais mieux. M'expliquer? Mais il n'y a pas d'explication à donner. Il est bien facile de comprendre qu'en partageant 20 000 livres sterling entre le neveu et les 3 nièces de notre oncle, il revient 5 000 livres à chacun. Tout ce que je vous demande, c'est d'écrire à vos sœurs pour leur apprendre l'héritage qu'elles viennent de faire. C'est-à-dire que vous venez de faire. Je vous ai déjà dit comment je considérais cela, et je ne puis pas changer ma manière de voir. Je ne suis pas grossièrement égoïste, aveuglément injuste et lâchement ingrate. D'ailleurs, je veux avoir une demeure et des parents. J'aime Moorhouse et j'y resterai. J'aime Diana et Marie et je m'attacherai à elles pour toute la vie. Je serai heureuse d'avoir 5 000 livres, mais 20 000 ne feraient que me tourmenter. Et puis, si cet argent m'appartient aux yeux de la loi, il ne m'appartient pas aux yeux de la justice. Je ne vous abandonne que ce qui me serait tout à fait inutile. Je ne veux ni discussion, ni opposition. Entendons-nous entre nous et décidons cela tout de suite. Vous agissez d'après votre premier mouvement. Il faut que vous y réfléchissiez pendant plusieurs jours, avant qu'on puisse regarder vos paroles comme valables. Oh, si vous ne doutez que de ma sincérité, je ne crains rien. Vous reconnaissez la justice de ce que je dis. J'y vois en effet une certaine justice, mais elle est contraire aux coutumes. La fortune entière vous appartient. Mon oncle l'a gagnée par son propre travail. Il était libre de la laisser à qui il voulait. Il vous l'a donnée. Après tout, la justice vous permet de la garder et vous pouvez sans remords de conscience la considérer comme votre propriété. Pour moi, répondis-je, c'est autant une affaire de sentiment que de conscience. Je puis bien une fois me laisser aller à mes sentiments, j'en ai si rarement l'occasion. Quand même, pendant une année, vous ne cesseriez de discuter et de me tourmenter, je ne pourrais pas renoncer au plaisir infini que j'ai rêvé, au plaisir d'acquitter en partie une dette immense et de m'attacher des amis pour toute ma vie. Vous parlez ainsi maintenant, reprit Saint John, parce que vous ne savez pas ce que c'est que de posséder de la fortune et d'en jouir. Vous ne savez pas l'importance que vous donneront 20 000 livres sterling, la place que vous pourrez occuper dans la société, l'avenir qui sera ouvert devant vous. Vous ne le savez pas. Et vous, m'écriai-je, Vous ne pouvez pas vous imaginer avec quelle ardeur j'aspire vers un amour fraternel. Je n'ai jamais eu de demeure, je n'ai jamais eu ni frère ni sœur. Je veux en avoir maintenant. Vous ne vous refusez pas à me reconnaître et à m'admettre parmi vous, n'est-ce pas ?
Jane, je serai votre frère et mes sœurs seront vos sœurs, sans que nous vous demandions ce sacrifice de vos justes droits.
Mon frère, éloigné de 1000 lieues, mes sœurs asservies chez des étrangers, et moi riche, gorgée d'or, sans l'avoir jamais ni gagné ni mérité ? Est-ce là une égalité fraternelle, une union intime, un profond attachement ?
Mais Jane, vos aspirations à une famille et à un bonheur domestique peuvent être satisfaites par d'autres moyens que ceux dont vous parlez. Vous pouvez vous marier.
Non, je ne veux pas me marier. Je ne me marierai jamais.
C'est trop dire. Des paroles aussi irréfléchies sont une preuve de l'exaltation où vous êtes.
Non, ce n'est pas trop dire. Je sais ce que j'éprouve et combien tout mon être repousse la simple pensée du mariage. Personne ne m'épouserait par amour et je ne veux pas qu'en me prenant, on cherche simplement à faire une bonne spéculation. Je ne veux pas d'un étranger qui serait différent de moi et avec lequel je ne pourrais pas sympathiser. J'ai besoin de mes parents, c'est-à-dire de ceux qui sentent comme moi. Dites encore que vous serez mon frère. Quand vous avez prononcé ces mots, j'ai été heureuse.
Si vous le pouvez, répétez-les avec sincérité.
Je crois que je le puis. Je sais que j'ai toujours aimé mes sœurs. Mon affection pour elles est basée sur le respect que j'ai pour leurs valeurs et sur mon admiration pour leurs capacités. Vous aussi, vous avez une intelligence et des principes. Vous ressemblez à mes sœurs par vos habitudes et vos goûts. Votre présence m'est toujours agréable. J'ai déjà trouvé dans votre conversation un soulagement salutaire. Je sens que je pourrais facilement vous faire une place dans mon cœur et vous considérer comme ma plus jeune sœur.
Merci, je me contente de cela pour ce soir. Maintenant, vous feriez mieux de partir, car si vous restiez plus longtemps, vous pourriez bien m'irriter encore par vos scrupules injurieux.
Et l'école, mademoiselle R., il faudra la fermer à présent, je pense.
Non, je resterai à mon poste jusqu'à ce que vous ayez trouvé une autre maîtresse.
Il sourit d'un air approbateur, me donna une poignée de main et prit congé de moi.
Je n'ai pas besoin de raconter en détail les luttes que j'eus à soutenir et les arguments que je dus employer pour que le partage du legs eût lieu comme je le désirais. Ma tâche était rude, mais comme j'étais bien résolue et que mon cousin et mes cousines virent enfin que j'étais irrévocablement décidée à partager également, comme au fond de leur cœur ils sentaient toute la justice de mon intention et savaient bien qu'à ma place ils auraient fait ce que je désirais faire, ils se décidèrent enfin à s'en rapporter à des arbitres. Les juges furent M. Oliver et un homme de loi capable. Tous deux se mirent de mon côté et je fus victorieuse. Les affaires furent réglées. Saint John, Marie, Diana et moi, nous entrâmes en possession de notre fortune.